Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Sourat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie.
Bismillahirrahmanirrahim. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
Et on leur dira: appelez vos associés. Ils les appelleront, mais ceux-ci ne leur répondront pas. Et quand ils verront le châtiment, ils désireront avoir suivi le droit chemin dans la vie ici-bas. Et le jour où il les appellera et qu'il dira « Que répondiez-vous au messager ?» Et ce jour-là, leurs arguments deviendront obscurs et ils ne se poseront point de questions. Mais celui qui sera repenti, qui aura cru et fera le bien, il se peut qu'il soit parmi les gens qui réussissent. Ton Rabb crée ce qu'il veut, et c'est lui qui choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'ils associent à lui. Surat Al-Qasas, ayah 64 à 68. Assalamu alaikum wa rahmatullah, content de te retrouver pour continuer l'épisode qu'on a débuté donc hier. Et là, c'est la conversation qui continue toujours. Allah, il est sur la même affaire là. Et il est vraiment déterminé à la fois à ne rien lâcher de ces personnes-là qui ont osé lui associer quelqu'un. Et il prend ce temps-là aussi pour que ça nous serve. Plus tu as des informations sur quelque chose, sur une scène, sur un fait, et plus tu peux t'en prémunir. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément... en tout cas, c'est pas leur passage qui préféré. Les passages où on parle du jugement, les passages où on parle de, bah voilà, de quand on est présenté devant Allah et qu'il y a des comptes. Même quand ça parle de entre guillemets des mécréants, ça provoque quelque chose en soi, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est une réponse que je donnais à mon fils une fois quand il m'a posé la question. Il m'a dit: mais maman, pourquoi il y a autant de références sur l'enfer? Et autant, en fait, il y en a autant que le paradis. Il y a autant de références sur le paradis que sur l'enfer. Si en gros le but c'est qu'on rejoigne le paradis, et si en gros le but c'est qu'on réussisse en fait, pourquoi on nous parlait autant de l'enfer? Et là j'ai répondu une phrase simple, parce que c'est ce qui m'était venu à l'instant T. J'ai dit: tu sais mon fils, l'enfer, je préfère en entendre parler que de le voir de mes propres yeux. Retiens ça, si un jour tes enfants te posent la même question ou un adulte, je préfère en entendre parler parce que ça me suffira comme remontrance et parce que je vais tout faire pour pas y aller, que de le voir. Parce que si l'enfer, on le voit de nos propres yeux, c'est que déjà, c'est chaud. Et déjà, même ceux qui vont aller au paradis vont passer sur un pont, à Sirat, qui survole l'enfer. Ça suffira largement. Et les gens voudront même pas regarder. Donc, je préfère entendre parler de l'enfer que de le voir devant moi ouvert, les portes ouvertes. Je préfère. Donc, laisse Allah parler de l'enfer. Vois ces ayats-là comme une prémonition. Vois ces ayats-là comme une manière de faire attention, tout simplement. C'est comme si, en fait, tu voyais un texte de loi et il y a autant de règles qui te disent une personne qui fait ça, alors elle a le droit à ça, etc. Et tu traverses des passages où on dit, pour telle personne qui fait ça, elle encourt telle peine, etc. Est-ce que ça te passerait par la tête de dire, Oh, mais ça me fait mal, en fait, quand on parle des peines de prison comme ça. Mais pourquoi est-ce que dans le Code civil, il y a autant de références aux amendes qu'on encourt? Il y a autant de références, en fait, aux années de prison qu'on peut avoir, au sursis ou pas, etc. Mais il faut pas... C'est triste, faut pas nous menacer comme ça. T'es d'accord avec moi que ça n'a aucun intérêt, que... Bah non. Si on ne donne pas de jugement et on ne dit pas ce que la personne encourt, bah c'est pire, en fait. Quand la personne fera quelque chose, elle dira qu'on l'a pas prévenue. Et pire, la personne pourra faire ce qu'elle veut... Et en fait, elle n'a pas de sentence. Et crois-moi, quand tu es du côté de la personne qui a subi l'injustice et qui est en face et qui est dans un jugement et qui doit, en fait, qui voit en fait la personne criminelle en face qui t'a fait quelque chose, qu'Allah nous préserve, tu es content, en fait, à ce moment-là qu'on donne la sentence. Oui ou non? Ouais. À ce moment-là, tu as besoin d'entendre que cette personne est punie. Pas pour le plaisir de voir quelqu'un se faire punir, mais parce que tu as besoin de justice. Eh bien, yawm al-qiyamah, il y a des gens qui auront besoin aussi de justice. Une personne qui a patienté dans ce monde, et il y a des gens qui sont des criminels et qui ont gâché la vie de milliers de personnes. Des gens comme Pharaon, je pense que c'est pas des milliers seulement qui vont témoigner contre lui. Tu penses que le jour du jugement, ces femmes-là, dont les bébés ont été égorgés, qu'ils attendront pas avec impatience de voir le jugement de Pharaon? Non, ils l'ont déjà vu de toute façon, parce que le Coran nous le dit. Mais le Coran a été révélé bien après. At-Tawrah aussi ne fait pas forcément mention de exactement de tout ça, peut-être, avec la même précision que le Coran. Donc tu penses que toutes ces femmes-là, là, elles attendent pas non seulement de voir le jugement de Pharaon, d'entendre la sentence et de le voir, limite elles voudraient même l'accompagner aux portes de l'enfer pour bien vérifier qu'il y rentre dedans. Donc là, ces gens-là vont pas dire « Oh, mais pourquoi on parle de l'enfer aujourd'hui? Mais faut pas parler de ça !» Tu vois, en fait, tout est question de perspective. On est des adultes, en tout cas la plupart, je sais qu'il y a des enfants qui m'écoutent aussi, machallah. Mais je veux dire qu'on est des personnes intègres. On est des gens qu'Allah a appelés « Ulul Albab », les doués d'intelligence. Il nous appelle comme étant ceux qui réfléchissent, ceux qui ont un esprit et un cœur. Et le cœur a besoin de justice. L'esprit a besoin de justice. Donc il faut qu'on passe à un niveau supérieur de se dire « je comprends pas, j'ai l'impression que tout est punition, etc. » Celui qui lit le Coran et qui vient nous voir en disant « ah mais j'ai l'impression que le Coran c'est que des punitions, c'est que des menaces, etc. » Cette personne, je vais lui dire avec la plus grande bienveillance du monde, avec un grand sourire, « je crois que tu n'as pas assez lu. » Parce que si tu avais assez lu le Coran, c'est compliqué. C'est comme quelqu'un qui lirait Surat Qasas et qui dit « Oh mais regarde, il y a plein d'ayats où Allah il parle du jour du jugement et de tout ce qu'il va dire aux mécréants. » Mais ça, franchement, je trouve que c'est une insulte à la Surat. On a envie de dire à cette personne « Attends. Mais t'as pas vu la belle histoire d'amour qu'il y a avec Moussa alayhi salam là? Et t'as pas vu la tawakkul de sa mère? Et t'as pas vu comment Asiya elle a enfin trouvé la joie? Et t'as pas vu aussi Pharaon comment on lui a enfin réglé son compte alors qu'au début de la Surat c'était « Inna Pharaon ala fil ard » Donc il semait la terreur sur terre. Là, limite, c'est pas Allah qui serait offensé. C'est nous, alors que c'est pas nous qui racontons l'histoire, qui serions offensés que quelqu'un réduise Surat al-Qasas à quelques ayats où Allah parle de l'enfer, ou parle du jugement, et même si c'était une surat entière où il parle de ça. Et alors, il faut. L'être humain en a besoin, sinon où est la justice? Tu vois en fait la lecture qu'il faut avoir du Coran, la lecture qu'il faut avoir d'Allah, de la parole d'Allah. Allah, le disant dans un hadith Qudsi, il dit « Je suis à l'image de ce que le fils d'Adam a de moi, en fait. S'il pense de moi du bien, il verra en moi du bien. Mais s'il pense de moi quelque chose d'autre, bah, c'est ce qu'il aura. S'il voit de moi que le côté punition, bah, effectivement, il le verra. Parce qu'en fait, naturellement, il va aller vers ce qui me déplaît. Parce qu'en fait, quelqu'un qui pense que du mal d'Allah, ou qu'il va apprendre que son côté punition, il ne peut pas être reconnaissant, parce qu'il ne regarde pas tout ce qu'Allah fait de bien. Donc comme il n'a pas la reconnaissance, il n'a pas le repentir, il n'aura pas les bonnes actions, il aura pas, voilà, il va être en pilote automatique dans je ne sais quoi, et bien celui-là va forcément faire plus de péchés, parce qu'il se dira « mais de toute façon, il ne veut pas mon bien ». Ah oh, c'est un peu triste quand même. Alors que la personne qui a une bonne opinion d'Allah, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu le côté réprimande d'Allah qui est normal. C'est comme si tu regardes un parent et tu dis « mais c'est un mauvais parent. Il a dit non à son enfant. C'est un mauvais parent. Il a empêché sa fille de faire ça. Elle a empêché son fils de faire ça. » Ah oui. Ouais. On est d'accord que ça n'a pas de sens. Alors, avançons dans nos ayats. Je fais une longue intro là. Et donc, Allah dira, donc il dit plutôt, on leur dira, donc ayat 64, « appelez vos associés, encore une fois. » Dans les ayats précédents, il avait dit « Où sont ceux que vous m'avez associés ?» Et là, cette fois-ci, donc ces gens ne pourront même pas répondre. Donc là, il dit « Appelez-les. » C'est plus seulement « Où ils sont ?» appelez-les. Donc là, Allah, il leur laisse même pas le temps de bégayer. Là. Il leur dit, appelez-les. Ils les appelleront. En tout cas, ils essaieront de les appeler. Mais ils ne leur répondront pas. Ah, ça fait mal le vent, là. Ah, le vent, on le sent, là. Là, tu vois, si on était dans une vidéo, on entendrait, tu sais, le son de la nuit où on entend les criquets et tout, là. Là, au niveau visuel, cinématographique, c'est ce que j'imagine comme scène. Le vent, on entend tous les sons de la nature un peu trop fort, là, à ce moment. Donc là, Allah dira, appelez-les, ceux que vous suiviez aveuglément, qui n'ont aucun intérêt pour vous, ceux qui sont capables de dire devant Allah, on les connaît pas, on se désolidarise d'eux, c'est pas notre problème, en fait, c'est triste. Et pourtant, Allah, pour pousser le bouchon plus loin, il va dire, appelez-les, appelez-les. Et ils vont pas répondre, en fait. Et bien entendu qu'ils répondront pas. Ils ont prévenu en plus, donc on n'est pas surpris. On s'attendait à ce comportement traître, puisque dans les ayats précédentes, comme tu as vu hier, Allah nous confie que ses dirigeants, ses idoles, entre guillemets, ces gens qui étaient suivis par des masses dans leurs bêtises, eh bien vont se désolidariser de leurs followers. Pour eux, ils diront, moi je les connais pas, chacun pour soi, j'ai assez de chats à fouetter comme ça. Et ils diront cette phrase un peu fatale. Donc Allah dit, ils désireront avoir suivi. El Huda, donc encore ça qui revient. Ils auraient voulu en fait. Laou annahum kanu yahtadun. Donc ils auraient souhaité très 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 fort avoir été guidés. Avoir eu de bons exemples de guidés. Pas ceux-là là, qui les lâchent comme ça, comme des chaussettes, des vieilles chaussettes. En gros, s'ils avaient suivi la voie droite, s'ils avaient suivi El Huda, s'ils avaient été guidés constamment, eh bien, ils n'auraient pas été là aujourd'hui, dans ce sentiment d'abandon, livrés à eux-mêmes et sans compagnie fiable. C'est vraiment triste. Ils vont vivre la tristesse d'avoir passé leur vie à faire passer les autres avant eux, à faire plaisir aux mauvaises personnes, à suivre les instructions de ces mauvaises personnes et à se détourner d'Allah par la même occasion. Franchement, le regret à ce moment-là, ça doit être tellement amer qu'Allah nous préserve. Et ils se disent que s'ils avaient été guidés, ils auraient conscience qu'une sentence existe déjà. Comme ce que je te disais, quand tu suis la voie d'Allah, quand tu es guidé, tu n'as pas peur que la sentence et que le châtiment et que l'enfer soient mentionnés devant toi. Tu n'as pas peur. D'ailleurs, tu as besoin que ce soit mentionné, parce que si tu ne sais pas, on parle d'une voie droite parce qu'il y a une voie qui n'est pas droite. S'il n'y avait qu'une seule voie, on ne parlerait pas de voie droite, on dirait la seule voie. Mais on demande une voie droite, parce qu'il y a une voie gauche. Une voie qui est gauche dans le sens métaphorique du terme. Une voie qui n'est pas bonne. Une voie, en fait, au bout de laquelle ça sent pas bon. Au bout de laquelle ça ressemble pas à chez moi. Parce que chez moi, de ce que j'ai vu dans les textes, de l'héritage, de ce que je ressens dans mes tripes, ce bonheur que je recherche, cette maison, cette sakina que je recherche depuis que je suis née, j'ai ce besoin viscéral de le retrouver, ça ressemble pas à ça. Ça ressemble plutôt à ce que je vois au bout de la voie droite. Ça ressemble à la maison. Paradis. Là-bas, je vais retrouver les miens, mes ancêtres, ceux qui ont fait que je suis bien guidée, en tout cas qui ont contribué plutôt. Et ça, ce passage-là, c'est un rappel pour nous. Nous devons absolument rechercher Al-Huda dans notre vie au quotidien. Yahtadoun ici, c'est le fait de chercher Al-Huda, puis obtenir Al-Huda, puis préserver à tout prix Al-Huda. Et beaucoup de gens connaissent la vérité, commencent à suivre la vérité, mais après, ils abandonnent. Et il y a ceux qui ne voient même pas la vérité, d'accord ? Parce qu'ils sont aveuglés par cette dounia. Aveuglés par la parure de la dounia et par le matar de la dounia. Donc zina et matar, d'accord ? Il faut constamment demander al-huda à Allah. Même si on est sur le droit chemin, en tout cas on commence, jamais, jamais s'arrêter de demander à Allah de nous le donner, parce que ça peut partir du jour au lendemain, d'accord ? Il faut constamment demander al-huda pour se mettre en sécurité. Et bonne nouvelle, et ça me fait tellement chaud au cœur de penser à ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est tellement une nécessité vitale, Al-Huda, et de la demander surtout, c'est tellement d'utilité publique qu'Allah a fait de sorte que tu fasses doua pour Al-Huda tous les jours. Et pas qu'une seule fois par jour, mais au moins à 5 moments de ta journée, pendant les salawat, les prières, et dans chaque prière, plusieurs fois, et sur un total de 17 fois dans la journée, minimum, juste avec les prières, juste avec ça. Et ajoute à ça le fait de le dire le matin, le fait de le dire le soir, pendant les adhkar, as-sabah ou al-masa, donc les adhkar les doigts qu'on fait pour se protéger matin et soir, qui sont recommandés d'ailleurs, c'est très important de les faire. Je te recommande en tout cas de ne pas finir ce Ramadan sans le faire. Plusieurs fois dans ta journée en tout cas, 17 fois minimum, tu vas demander à Allah El Houda, et fermement en plus. Est-ce que tu as deviné de quoi je parlais ? Je parle de la ayah numéro 6 de Surat Al-Fatiha, que tu connais par cœur. Ihdina Sirat Al-Mustaqim. C'est très fort et c'est très complet parce que on ne demande pas seulement le Houda, parce que sinon on dirait Ihdina, Ya Allah, Ihdina, guide-nous. Mais non, Ihdina Sirat, ça aurait suffi aussi, Al-Mustaqim. Donne-nous la guider dans la voie droite. Donc c'est complet en fait, parce qu'on pourrait demander la guider. Mais la guider où ? La guider sur quel chemin ? On peut demander la guider, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. On peut nous demander, éclaire-nous notre chemin vers le mal, quoi. Donc, en demandant El Houda, et dans la voie où El Houda est la mieux exprimée. Donc, Ihdina Sirat al-Mustaqim, tu le dis pas moins de 17 fois par jour. C'est énorme, en fait. Et c'est dans la première sourate du Qur'an, Al-Fatiha, la sourate qui ouvre ton Qur'an, la sourate qui te fait faire connaissance avec Allah, avec toi, avec le monde, avec ta mission. Et Allah, en fait, te fait parler dans cette sourate. Il te fait parler en te faisant prononcer une doua. La première phrase, en fait, finalement, qui te, où il te fait t'exprimer, c'est une doua. Comme pour dire que les premières choses que tu dois discuter avec Allah chaque jour, commence par les doua. Commence pas par autre chose. Commence par des doigts. La première personne à qui tu dois parler, enfin le premier plutôt, parce qu'on ne peut pas parler de personne, le premier à qui tu dois parler dans ta journée, c'est pas tes enfants, c'est pas ton époux ou ton épouse, c'est pas ton chat, c'est pas les réseaux sociaux, c'est Allah. Et Allah nous donne une très belle formule pour se réveiller, comme pour dire bonjour, bonne journée. La journée commence, je suis content de m'être réveillé. Par des doigts, tout simplement. Et tu vois, quand on te dit qu'Al-Fatiha est une guérison à elle toute seule, tu comprends maintenant. Donc on demande à Allah, guide-nous dans le droit chemin. C'est complet, c'est clair, explicite, ça passe pas par quatre chemins, justement. Mais c'est un jeu de mots, chemin, guider, voie droite. Donc on passe pas par quatre chemins, c'est efficace, net, précis. Et Allah, si tu regardes bien, il a fait sa part, une grosse part même, en limite nous imposant la prononciation tous les jours, plusieurs fois par jour, de cette formule pour notre bien. En fait, il ne nous laisse pas le choix de ne pas la faire pour notre bien. Parce que pas de prière sans le Fatiha, c'est impossible. Tu ne peux pas prier sans le Fatiha. Même les prières en fait, où tu ne récites pas une sourate après, par exemple enfin, les rak'at plutôt, tu pries par exemple Al-Maghrib, les deux premières rak'at, Al-Fatiha puis une sourate, Al-Fatiha puis une sourate. Et la troisième rak'at, c'est Fatiha tout seul. Mais Fatiha est toujours dans l'équation. C'est impossible une prière où il n'y a pas le Fatiha. On dit qu'il n'y a pas de salat sans Fatiha. Elle n'est pas valide. Donc, c'est obligatoire. Et pareil, dans la journée, si tu as des enfants, tu leur as forcément récité, fait répéter. Tu les as récités le matin, tu les as récités le soir. Donc, en fait, tu passes ta journée avec Al-Fatiha. Tu passes ta journée avec une salat, en vrai. Tu l'as su matin, midi et soir. C'est ta meilleure amie, normalement, Al-Fatiha. Déjà. Et après, tu vas t'en acquérir d'autres. Donc, Allah a fait sa part. Et là, j'ai envie de dire, et ta part à toi, et ma part à moi, finalement. Et la part de chacun d'entre nous, c'est quoi ? On va dire, « Ihdina as-sirata al-mustaqim » avec notre langue, et agir selon le contraire. On va demander la guider, la guidance, et se comporter comme ceux qui suivent les autres, qui suivent autre qu'Allah, qui suivent leur seul désir. Ça n'a pas de sens. On doit faire notre part. Et tu sais quoi ? On fera notre part, Inch'Allah. On fera, Inch'Allah. Allah a fait une promesse aux croyants qui ont choisi la guider. Nous, on va faire en retour une promesse à Allah, chacun de notre côté, de faire notre maximum, parce qu'on est faillible, notre maximum pour chercher la guider, Al-Houda, à tout prix, pour la suivre, et quoi qu'il nous en coûte, on va y rester, Inch'Allah. Donc il faut demander l'aide d'Allah aussi. On fait une promesse et en même temps on demande son aide, c'est très beau. La ayah suivante, Allah dit, et le jour où il les appellera, et il dira, que répondiez-vous au messager ? Mada ajabtumul mursalin. C'est comme s'il disait, au fait, et les messagers, qu'est-ce que vous leur aviez répondu quand je vous les ai envoyés successivement pour vous aider, dans la guidée, Al-Huda, pour vous accompagner à n'adorer que moi, Allah, vous les avez suivis ou vous les avez dénigrés? Allah dit dans un autre passage du Coran, « فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ » Nous allons interroger les deux en fait. On va interroger ceux qui ont reçu les messagers et on va interroger les messagers. Et donc Allah dit « مَذَا أَجَبْتُمْ ». Donc c'est un jawab, c'est une question. Et là ici, c'est pas seulement dire, quand il dit « qu'est-ce que vous avez répondu aux messagers ?» Ici, la réponse qu'il attend, c'est pas « bah moi j'ai cru en eux, j'ai cru en toi, j'ai fait ma shahada, genre en gros j'assurais que la ilaha illallah Muhammad Rasulallah ». Non en fait, c'est faire, c'est croire, etc. Mais c'est aussi suivre. Allah, quand il pose cette question, il dit « est-ce que vous les avez suivis? Qu'est-ce que vous leur avez répondu ?» Et là, les mécréants, on sait qu'est-ce qu'ils ont répondu. Ils ont répondu avec toutes leurs objections. « Oui, mais on a peur de ceci. Oui, mais si on te suit, il va nous arriver ça. Oui, mais pourquoi tu n'es pas venu avec la même chose avec laquelle est venu Moussa alayhi salam, etc. etc. » Eux, c'est ça qu'ils répondront. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non, ce n'est pas la réponse de quelqu'un qui suit, donc ce n'est pas la bonne réponse. Et donc, suivre aussi, ce n'est pas suivre ce que je veux et laisser ce qui ne m'arrange pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui suivent partiellement. Hein. Il y en a qui ont une application partielle de la foi. Du fait de croire en les messagers. Ils prennent une partie et ils laissent une partie. Et ça, c'est grave. En fait, il faut, dans cette réponse-là, que nos actions en fait, aillent avec. Suivre réellement tout. Je suis ce que je veux et ce que j'aime moins. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on nous demande faire qu'on aime. Par exemple, la personne qui n'aime pas se lever tôt le matin, alors qu'il y a le fajr, ce n'est pas le fajr qu'elle n'aime pas. Ce n'est pas prier qu'elle n'aime pas. Mais elle n'aime pas se lever le matin trop tôt. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu n'aimes pas. Mais si tu fais l'effort de te lever et tu commences à prier, c'est rare quand même. Il faut le faire, hein, de prier, d'avoir conscience qu'on est devant Allah, d'avoir conscience que c'est le premier rendez-vous de la journée, d'avoir conscience que le Qur'an récité au Fajr, tout ce qui est autour du Fajr, a des témoins, donc les anges viennent assister, que c'est des moments privilégiés, c'est des moments où Allah est là. Franchement, il faut le faire de se dire, de rester fâché, énervé ou grognon parce qu'en fait on s'est réveillé. Ça, ça passe. Ça, c'est au moment où on vient de juste se réveiller, c'est dur. Mais une fois qu'on s'est levé, on n'en parle plus. D'accord ? Donc, il faut que les actions suivent réellement. Et nous, à notre échelle, c'est comme si Allah nous posait la question. Parce que là, on pose la question à quelqu'un, Yawm al-Qiyama. À ces gens, c'est une question rhétorique ici. Hein. Eh bien, nous, en fait, encore une fois, on n'est pas en reste. On doit se poser cette question. Et aujourd'hui, c'est quoi la question ? Cette question-là, version nous, là, aujourd'hui, qui écoutons et qui parlons, c'est quoi ? C'est, il faut entendre Allah qui nous dit... As-tu suivi Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam? As-tu appris sa sira? Parce que suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, suivre quelqu'un et tu ne peux pas dire seulement « Oui, j'ai attesté en fait qu'il y a que la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. » Oui, oui, je suivais Rasulallah. D'accord. Et tu faisais quoi? Bah, je suivais. Oui, mais tu faisais quoi? Bah, j'ai pas fait ça. Et puis, et en fait, tu ne peux pas dire que tu suivais pleinement Rasulallah si en fait tu ne connais même pas un minimum de sa vie, sa sira, sa journée type, tout ce qu'il faisait, ses batailles, ses interactions familiales, son comportement avec les gens, comment il faisait sa prière, comment il dormait, comment il mangeait. Tu dois connaître ces détails. C'est pas... pour le coup, ça revient à ce que je disais pour une des ayats. Comment on peut accepter de connaître tout de la vie de quelqu'un, soi-disant célèbre? On connaît sa date de naissance, on connaît son vécu, on sait combien d'enfants cette personne a eu, on connaît les personnalités de chacun de ses enfants, on sait combien de maris ou de femmes cette personne a déjà eu dans sa vie, on connaît les erreurs, on connaît dans quelle école ils ont été. Bon, moi, personnellement, je ne connais pas les trucs des célébrités, mais en tout cas, ça se voit autour de nous. Il y a des personnes qui sont plus au courant de la vie de certaines personnes que d'un parent éloigné de sa famille. Ou encore pire, ils en connaissent plus d'eux que de Rasulallah. Comment ça se fait en fait que les superstars de notre histoire islamique, on ne les connaît pas? On ne les connaît pas par cœur? Pourquoi aujourd'hui, si on parle de Abdullah ibn Abbas, est-ce qu'on peut décrire sa vie de sa naissance à sa mort? Tout ce qu'il a fait? Alors que c'est parmi ceux que Rasulullah aimait le plus? C'est pas normal. Là, ne parlons même pas des compagnons. Rasulullah lui-même. Est-ce qu'on connaît tous les détails de sa vie? En tout cas, tout ce qui est porté à notre connaissance? Comment on peut prétendre le suivre si, en fait, les détails de sa vie, on ne les connaît pas? Tu vois là, avec Al-Qasas, ces passages de la vie de Moussa alayhi salam, on ne peut pas dire qu'on ne nous a pas appris. On n'a pas besoin de regarder des films, les 10 commandements, lire des trucs que les juifs écrivent. On n'a pas besoin, on prend juste notre Qur'an, Moussa alayhi salam, on ne peut pas dire qu'on ne le connaît pas. Et pourtant, il y a des passages de sa vie qu'on passe comme ça. Là, aujourd'hui, Inch'Allah, ya Rab, si Allah nous demandait « Est-ce que tu connais Moussa alayhi salam ?» On peut parler des fins détails de sa vie. On peut parler de sa mère. On peut parler de son épouse, du choix de son épouse. On peut parler de sa grande sœur, enfant à l'époque. On peut parler de Asiya, alayhi salam. On peut donner des détails. Mais si on lit vite et qu'on ne fait pas attention, on ne peut pas, en fait. Si on ne parcourt pas ce qu'Allah nous met à disposition, on ne peut pas. Et aujourd'hui, franchement, moi, quand je vois cette question-là, quand Allah dit, donc là, c'est ce qu'il dira le jour où il les appellera, il leur dira « Qu'est-ce que vous avez répondu au messager ?» Nous, notre version à nous, parce qu'on n'a pas Rasulullah devant nous, c'est « As-tu suivi Rasulullah ? Qu'est-ce que tu as fait de ce que Rasulullah t'a donné ?» Honnêtement, est-ce qu'on est prêt à répondre à cette question ? Moi, personnellement, j'ai peur de répondre là. Parce que je me dis, pas la peur qui tétanise et qui fait rien faire, hein. Non, mais dans le sens, je me dis, à approfondir, je peux mieux faire que ça. Je peux plus apprendre. On n'arrivera jamais, je pense, à un point ici-bas, on se dira, c'est bon, moi je suis calé, je connais tout sur tout, pose-moi n'importe question sur lui, je peux répondre. On n'a pas cette prétention-là. Mais en fait, on fait notre maximum. Au quotidien, on doit pouvoir régulièrement se dire, pour un geste qu'on fait, c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ce qu'on fait, il faut prendre le temps de ralentir. Au moment où je mange, je me dis, en quoi dans ce que je fais, là, je ressemble à... En tout cas, je ressemble à Rasulullah dans son comportement. J'ai mangé avec la main droite ? Ah, ok, d'accord. J'ai dit bismillah ? D'accord. Est-ce que j'ai essayé de manger avec la main de temps en temps ? Ça fait du bien aussi, c'est cool en fonction de la nourriture qu'on mange. Ok. Est-ce que j'ai fait attention à un tiers eau, un tiers nourriture, un tiers air ? Ok. Là, dans cette action-là, j'ai appliqué ce que Rasulullah fait. Quand je m'adresse à mon épouse ou à mon époux, est-ce que j'ai soigné ma manière de parler ? Est-ce que j'ai utilisé des belles formules ? Est-ce que j'ai donné un surnom à mon conjoint ? Parce que Rasulullah le faisait. Suivre sa sunna, c'est aussi ça. Ses épouses, elles avaient tous des surnoms. Des surnoms qu'ils avaient entre eux. Aïcha, il l'appelait tantôt. Il y a Aïch. Tantôt, il y a Aïchou. C'est beau, en fait. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Chacun avait ses noms, en fait. Zainab, il l'appelait des fois Zouaynab, en fait. Ça veut dire petite Zainab. Ma petite Zainab à moi. Zouaynabati. Ils sont en fait les... Où sont en fait les bonnes manières ? Et ça, c'est ça, Sira, c'est ça, Sunna. Il faut qu'on puisse ce jour-là répondre la tête haute devant Allah. La tête haute dans le sens avec dignité, avec fierté, avec prestance, avec une certaine confiance de se dire « Oui Allah, j'ai répondu à Rasulullah, je l'ai suivi, j'ai fait ce que je pouvais. » Dans toutes mes actions, que je sois au boulot ou là, on peut être des adeptes de Rasulullah toute la journée, si on veut. On peut. Et ce n'est pas des choses compliquées à faire, en fait. Mais est-ce qu'on a essayé ? Tout simplement. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment creuser. Approfondir la sira, connaître la sira, la vie de Rasulullah, pour savoir comment le suivre, tout simplement. On ne peut pas dire « je suis Rasulullah » si déjà on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait de son quotidien. Ensuite, à la Aya 66, donc là, il dit « ce jour-là, leurs arguments deviendront obscurs ». D'accord, aveugle. Il utilise le mot aveugle pour parler d'un argument. C'est assez fort. Et ils ne se poseront pas de questions. Donc, fa'amiyat alayhim al-amba. Donc, al-amba, c'est tout ce qui est nouvelle. Amiyat, ça veut dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est devenu aveugle. Là, les informations qui sont censées répondre, en fait, vont devenir floues, vont devenir vraiment brouillées. Ils n'auront pas les idées claires. C'est un peu ça. Ils verront pas clair. Ils n'arriveront pas à sortir des arguments. Le « mais » en fait, c'est-à-dire qu'ils n'arriveront même pas à le dire. En fait, ils vont rester muets. Ils ne pourront pas sortir tous les arguments qu'ils donnaient au prophète, là. Le « oui, j'ai peur de perdre ça, pourquoi tu ne nous as pas envoyé ça ?» Ils n'arriveront pas. C'est-à-dire, ce jour-là, les grandes bouches, là, ils ne pourront pas parler. Tous les arguments que tu as entendus avant, ça ne marche pas. Ils n'arriveront pas à les sortir devant Allah. Parce que ces arguments, déjà, ils n'étaient pas du tout solides à la base. Et ils le savent, et ils n'ont pas l'audace de les redire là devant Allah. Et aussi parce que ces arguments étaient nuls de chez nuls. Même eux, en fait, finalement, ne se rappelleront même pas de leurs nombreuses objections, parce que quelque chose qui est faux, quand on nous demande de le redire, on le redit rarement comme la première fois. Un mensonge, en fait, il reste pas le même avec le temps. Donc même eux, ils se rappelleront même pas. Et c'est la preuve, en fait, qu'au moment où ils répondaient ces choses-là à Rasulallah sur Terre, toutes leurs objections-là, c'est la preuve, en fait, qu'ils ne croyaient pas en leurs propres arguments. La preuve, aujourd'hui, ils ne peuvent pas les sortir. Ils savaient la vérité. Ils connaissaient, en fait, la vérité. Mais l'appel de la dunya, l'appel des passions, était beaucoup trop forte pour eux. Ils ont préféré suivre l'éphémère plutôt que la promesse de celui qui ne déçoit jamais, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront complètement à court d'arguments parce qu'ils auront beaucoup trop peur. Et ça, on le vit au quotidien parfois. La peur, le stress, ça nous fait oublier ce qu'on a envie de dire. Et après coup, on se dit « Oh, pourtant, je savais, je connaissais la réponse et je n'ai pas réussi à parler. » C'est pas qu'on ne savait pas, mais c'est qu'en fait, on avait trop peur. Eh bien, t'imagines, là, dans cette sourate, on parle beaucoup de la peur. La vraie définition de la peur et de ses conséquences fâcheuses-là et du fait qu'en fait, que eux, pour le coup, c'est plus le moment de gérer leurs émotions. Là, en fait, on a la manifestation de la peur comme un sentiment négatif ce jour-là pour eux. Parce que les bien guidés, le jour du jugement, ils n'auront pas peur comme ça. Ils auront une forme de peur, c'est-à-dire c'est celle de ne pas apparaître dans la liste d'appels du paradis. Et ça, c'est la preuve d'humilité aussi. Mais cette peur-là, là, comme celle de cette scène, non. Et qu'Allah nous préserve. Et Allah rajoute quelque chose, c'est qu'ils n'arriveront même pas à se concerter entre eux. Il dit qu'ils ne se poseront pas de questions. D'accord ? Fala hum yatasa alun. Ou plutôt, fa hum la yatasa alun. Ils n'arriveront pas, en fait. Parce que des fois, quand on est plusieurs personnes, par exemple, sont à côté et ils ont fait une bêtise. Et on leur dit, qu'est-ce que t'as à répondre ? Des fois, les gens se regardent du coin de l'œil, l'air de dire, dis ça. Et puis, ils essayent de se concerter pour avoir la même version des faits. Parce qu'on est d'accord que plusieurs personnes qui ont des versions différentes, ça aggrave le problème. D'accord ? C'est comme des gens qui sont criminels, ils vont être auditionnés par la police, ils ont eu le temps de se dire, on va se mettre d'accord sur un scénario. Il est archi faux ce scénario, il est monté toute pièce, mais il faut absolument qu'on donne tous les mêmes détails. Et ils vont répéter plusieurs fois le truc, à quel moment t'as fait ça, etc. Pour qu'on soit tous sur le même tempo et qu'on paraisse crédible. Allah dit, même ça, Yawm al-Qiyamah, je leur donnerai pas parce qu'ils arriveront même pas. C'est horrible en fait cette scène, c'est horrible ce sentiment. Il dit, ils n'arriveront pas à se concerter entre eux, ils n'arriveront pas à se disputer entre eux, ils n'arriveront pas à se questionner sur la bonne explication à donner à Allah pour s'en sortir. Encore une fois, ce sera chacun pour soi. Et encore une fois, ils vont vivre encore une grande scène d'abandon. Côte à côte, sans pouvoir céder les uns les autres. C'est horrible. Donc, comment être sauvé le jour J de ça ? La réponse, il la donne dans la ayah d'après. La ayah 67, où il dit « Mais celui qui sera repenti, qui aura cru et qui fera le bien, et qui aura fait plutôt le bien, il sera parmi ceux qui réussissent. » Là, la traduction dit « il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent », mais ce n'est pas tout à fait juste, je vais te dire pourquoi. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut vivre une vie en étant à côté de la plaque, parce qu'on est faillible, on se trompe, et on peut décider de se réveiller. C'est jamais fini jusqu'à la fin, en fait, tant que ce n'est pas la fin. On peut demander pardon à Allah. On peut finir par croire enfin. On peut se recalibrer dans le droit chemin. Sirat al-Mustaqim. Et quand Allah dit ici « Asa », qui dit « Fa'asa an yakuna min al-muflihin ». Asa, pour le commun des mortels, quand on parle d'un être humain, ça veut dire « peut-être ». Asa. Par exemple, quand Allah dit « Fa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayru lakum ». Donc il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Comme il dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. Mais quand il s'agit d'Allah, quand Allah dit « Fa'asa » ici en parlant de lui, eh bien, ça ne veut pas dire peut-être. Parce qu'Allah dit toujours la vérité. Parce que les paroles d'Allah sont toujours vérité. Et parce qu'il tient ses promesses. Donc, il ne va pas dire peut-être, il va leur pardonner. Non, qu'Allah nous préserve, ce n'est pas du tout ça. Il dira, celui qui s'est repenti, qui se sera repenti, qui aura cru, qui aura fait le bien, alors il sera parmi ceux qui réussissent. Ils seront sauvés le jour J, ces gens-là. Et là, il emploie un terme assez impressionnant, assez intéressant. En parlant de ceux qui réussissent, il parle de « muflihin ». C'est la même chose que tu retrouves dans Surat al-Mu'minun, le début de Surat al-Mu'minun, quand il dit « qad aflaha al-Mu'minun ». Donc les croyants ont vraiment réussi. Et après, il y aura une succession de ayats où il décrit quel est l'objet de la réussite. Ceux qui sont assidus à leur prière, ceux qui s'éloignent des futilités, etc. Et il cite vraiment plusieurs catégories. « Al-falah » ici, c'est la même racine que « al-fallah ». L'agriculteur. C'est quelqu'un, en fait, qui travaillent dur pour réussir ces récoltes. Ok ? Et donc, celui qui réussit après un dur labeur, ou celui qui... C'est aussi, enfin, quand on parle de Mouflihin, c'est celui qui réussit après un dur labeur. Et c'est aussi celui qui échappe au danger et qui devient safe, qui rentre en sécurité. Donc cette personne, elle a échappé au danger de l'au-delà, donc elle a échappé à l'enfer, et elle a atteint son objectif final, la vie éternelle au paradis. Mais il est important pour Allah d'écarter pour nous la pensée même de la chance. Parce que les gens, ils aiment trop dire ça. Oui, un tel, il a de la chance. Oui, moi, j'ai eu de la chance, j'ai été sauvé. Il n'y a pas de chance ici, d'accord ? D'où l'emploi du terme « muflihin » pour que chacun comprenne qu'il ne faut pas seulement espérer. Il faut se retrousser les manches. L'agriculteur, là, l'agriculteur, il ne reste pas chez lui à espérer, en fait. Hein. À espérer quoi ? Que les graines se plantent toutes seules ? Que la terre se laboure toute seule ? Qu'elle s'arrose toute seule ? Qu'elle s'entretienne toute seule ? Que les fruits et légumes se récoltent tout seuls ? Qu'ils se vendent tout seuls au marché ? Que l'argent vienne tout seul ? Aucun agriculteur n'oserait espérer tout ça en se la coulant douce et en se disant « Moi, je savoure la vie, je suis mes désirs, on n'a qu'une vie, et puis la chance me sourira. Il faut juste un peu de pluie et ça ira. » Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un agriculteur, il espère et il travaille. Et Allah nous donne le plan d'action pour être de ceux qui auront la tête haute et qui seront dignes le jour du jugement. Et le plan d'action qu'il nous donne à suivre, il est vraiment très clair. Le numéro 1, c'est se repentir. Il faut s'habituer à faire taouba, à se repentir pour toutes les formes de péché qu'on fait, majeur ou mineur, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on se trompe tous. Et on a tous, à un moment donné, flanché au moins une fois, en suivant parfois nos désirs, en oubliant que en fait, ce ne sont pas nos désirs qui doivent nous gouverner, mais c'est l'inverse. Deuxième élément, c'est de constamment croire en Allah, en la mission de ses messagers, en la véracité de ses livres saints, en l'existence de ses anges, parce que ça fait partie de la foi tout ça, en l'arrivée certaine du jour du jugement, en l'existence du paradis et de l'enfer. Ça suffit largement en fait, il y a de quoi faire avec tout ça déjà, à croire en fait. Déjà c'est suffisant, alors faut comprendre que la foi fluctue et se travaille. Et troisième point, faire le bien, toujours le bien. Et là, rappelle-toi de l'agriculteur, tout ce qu'il fait. Et enfin, l'ayah 68, il dit, donc ton Rabb crée ce qu'il veut, et il choisit aussi. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, subhana, d'accord ? Subhanallah, wa ta'ala amma yushrikun. Donc, gloire à Allah, il transcende tout ce qu'il lui associe. Allah crée ce qu'il veut. Là, c'est assez clair. C'est lui qui choisit. Il demande l'avis de personne. Et encore heureux. Et il choisit, il sélectionne. Donc, yakhtar. Yakhtar, c'est vraiment choisir quelque chose. Dedans, il y a khair. C'est le fait de choisir le meilleur. D'accord ? Donc, un choix. Un choix porté sur quelque chose de bon, de meilleur. Il donne une préférence à qui il veut. S'il juge qu'une personne doit avoir ça par rapport à une autre, une prévalence par rapport à une autre, il lui accorde ces privilèges-là. Il lui accorde cette baraka-là. Et c'est lui qui sait pourquoi il le fait. Dans sa création, il choisit qui va être prophète ou pas, qui va être un leader ou pas. Il choisit aussi l'époque que la personne, là où elle va vivre ou pas. Et attention, attention à la pensée qu'on pourrait avoir de dire que ceux à qui Allah a donné une forme de préférence sont plus aimés auprès de lui par rapport aux autres. Parce qu'il y a deux formes de ce qu'il appelle tafdil, d'accord ? Allah choisit, c'est vraiment lui qui choisit, et dedans c'est le fard, donc le tafdil, il y en a deux. Il y a le tafdil al-jibili, donc c'est en termes de création, donc c'est le choix, la préférence en termes de création. Par exemple, une personne qui est créée plus grande de taille qu'une autre, ou plus forte qu'une autre, il a un avantage, comme Moussa alayhi salam, qui avait une force qui dépassait le commun, d'accord ? Mais est-ce qu'on peut dire que parce qu'il a cette force, juste sur cette force-là, Moussa alayhi salam, c'est pas pour cette raison qu'Allah l'aime. C'est pas par rapport à la force qu'il lui a donnée. Parce que la preuve, cette force-là, là où d'autres vont le voir comme une chance, un privilège, oui, Allah, il l'aime plus. Bah, cette force, elle lui a porté défaut quand il a tué cet homme. Donc non, la force en elle-même, c'est pas elle le privilège. Hein. C'est pas la force qui fait de lui que c'est quelqu'un de bien. Parce que ça, tout le monde pourrait être très fort et faire n'importe quoi avec. D'accord ? Pareil, la personne qui a plus d'argent qu'une autre, c'est Allah qui décide. Mais on ne peut pas dire qu'Allah aime plus cette personne parce qu'elle a plus d'argent. Donc ces gens ne sont pas identiques, c'est vrai. On ne peut pas comparer celui qui a à celui qui n'a pas. Ils ne sont pas pareils. Mais ils ont des privilèges dans certaines situations et pas dans d'autres situations, d'accord ? Et donc ça, c'est la première forme. Donc, al-tafdil al-jibili. Et il y a al-tafdil al-dini, d'accord ? Donc, dini, il y a din dedans. Donc là, c'est la préférence, l'avantage, la prévalence sur le plan religieux, des connaissances religieuses. Certaines personnes ont un avantage par rapport à d'autres. Une plus haute position, par exemple. Et il y a des sous-catégories. Par exemple, il y a une préférence entre les prophètes. Le prophète Mohammed a plus de mérite et se distingue par rapport aux autres. Est-ce qu'on peut dire que les autres sont moins bons ou que Allah les privilégie pas ou les met à l'écart ? Non. Et c'est Allah qui a décidé. Dans les mois de l'année, il y a des mois sacrés et il y a des mois qui sont meilleurs que les autres. Parmi les sourates, il y en a qui ont plus de mérite auprès d'Allah que d'autres. Il y a des sourates, Allah a dit, celui qui récite sourate al-Baqarah, il aura la baraka. Il n'a pas dit d'une autre sourate. D'accord ? Donc, attention en fait à cette notion d'égalité qu'on aime trop sortir tout le temps. Hein. D'accord ? Et vouloir assigner à Allah le fait de faire preuve d'égalité dans tout. Il faut arrêter avec le mot égalité. L'égalité, c'est important dans la vie, mais ça ne définit pas tout. Allah s'est imposé à lui-même, en toutes circonstances. Ce qui s'est imposé, c'est la justice. Et ce qui s'est interdit aussi, en toutes circonstances, c'est l'injustice. En toutes circonstances. L'égalité aussi, il l'applique. D'accord ? Tout le monde a 24 heures dans une journée, par exemple. Tout le monde a du sang dans les veines. Tout le monde dispose d'oxygène pour vivre, tout le monde en a besoin. Mais appliquer l'égalité en toutes circonstances, ça peut devenir une forme d'injustice. Si Allah décidait là soudain que tout le monde est obligé de travailler de nuit, par exemple, d'accord ? Pour que tout le monde soit égaux. Ah, il y en a un qui travaille de nuit, tout le monde travaille de nuit, c'est comme ça. Eh bien, ce serait injuste envers ceux qui ne peuvent pas travailler la nuit. Ce serait injuste envers ceux qui ne sont pas habilités à le faire. Donc, il y aurait une forme d'injustice, en fait, ici. On ne peut pas demander à Allah, exiger d'Allah l'égalité. Il faut arrêter avec ça. La justice, oui, mais l'égalité, non. L'égalité, ce n'est pas la justice. Il en faut, mais ce n'est pas que ça. Les gens n'ont aucune part de décision dans ce qu'Allah décide de créer. C'est ce qu'il dit. « Ma kana lahumul khiyara ». Ce n'est pas eux qui décident, en fait. Ni personne, en fait. Donc, les gens ne décident pas, n'ont pas de vue sur ses choix. Les choix lui appartiennent. Il y a une ayah dans le Coran où... où les dignitaires de Quraysh lui demandent « Mais pourquoi, en fait, ça n'a pas... Pourquoi le Coran, il n'a pas été révélé sur des gens haut placés, en fait, des deux villes haut placées ?» Par exemple, pourquoi ça n'a pas été sur Al-Walid ibn al-Mughira, le père de Khalid ibn Walid ? Il est éloquent, c'est un haut placé ici, il s'exprime très bien, il est richissime, c'est un des plus âgés, c'est un des plus sages parmi nous, pourquoi pas lui ? Et il se trouve, l'ironie, c'est que cet homme-là, dans Surat Muddathir, Allah le châtie. Allah parle de lui. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de ces gens-là qui ont vu la vérité dans le Coran et qui ont osé associer le Coran à la sorcellerie. Donc Allah ne lui a pas pardonné ça. Et il est mort mécréant. Il est mort mécréant. Donc en fait, Allah, quand il dit que c'est lui qui choisit, parce que c'est lui qui sait qui a le mérite ou pas, c'est lui qui décide qui va arriver à quelle époque ou pas, qui a besoin de telle subsistance ou pas, qui a besoin d'être mis en avant dans cette situation ou pas. Il y a des gens, ils ne veulent pas être mis en avant. C'est délétère pour eux. Alors, on ne va pas dire que oh, celui-là qui est mis en avant, qui est un leader, que tout le monde voit, qui a plein de followers, qu'on voit partout, il a la chance et il a l'amour d'Allah par rapport à celui qui est dans l'ombre. Les travailleurs de l'ombre, ils ont plus de mérite hein, que ceux qu'on voit devant tout le monde. Donc, en fait, Allah est en train ici, il nous écarte un peu du... Enfin, ici, c'est pas qu'un peu, mais il est en train de nous dire gentiment... Restez à votre place. C'est moi qui ai aux commandes. Je n'ai pas de compte à vous rendre sur ce que je choisis. Je n'ai pas de compte à vous rendre sur comment je choisis. Personne ne peut choisir ça. Manquerait plus que ça, quoi. Et c'est ce que les autres essayent de faire quand ils disent « Mais pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas envoyé un prophète qui envoie ça ? Mais pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas ? Mais en fait, pour qui vous prenez ?» C'est un peu ça qu'Allah est en train de leur dire ici. Vous prenez pour qui ? Quand il dit qu'il n'a pas d'associé, c'est vrai, parce que quelqu'un qui a des associés, dans une entreprise, quand tu as des associés, tu ne peux pas prendre des décisions tout seul. Tu dois les concerter, surtout s'ils ont des parts. Allah, en fait, il n'y a pas de part avec lui. Et c'est lui qui les a toutes. Donc, il va concerter qui ? Donc, comme Allah le dit, je n'ai pas d'associés. Alors, pourquoi tu te permets de me demander de mettre ton avis dans mes décisions ? Pourquoi ? La preuve, parce que quand tu prends des décisions, ça mène pas toujours au bien. Si tu étais le seul décisionnaire de ta vie, même si c'est ta vie, eh bien, il n'en sort pas que du bien. Alors, c'est pas la preuve, en fait, que tu dois me laisser aux commandes et seulement moi et arrêter. Et de toute façon, même si tu voulais participer, ça marcherait pas. Donc là, c'est une manière bienveillante de nous dire « calmez-vous un peu, d'accord ?» Donc, c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, qu'on dit « Inch'Allah » quand on parle. « Inch'Allah, si Allah veut. » Là, c'est la... Tu veux le tafsir de « Inch'Allah » C'est cette ayah. T'as tout, ici. C'est Allah qui choisit. C'est lui qui décide. Et ce qu'il veut, c'est toujours pour ton bien. C'est pas pour son bon vouloir à lui, juste pour vouloir. Donc, subhanallah, une très belle formule ici qui nous est rappelée, qu'on connaît par cœur, subhanallah. Donc, ne pense jamais qu'Allah est injuste. C'est ça qu'il dit, subhanallah. Donc, ce qu'ils osent dire à propos d'Allah, qu'ils osent lui associer tout ça. Là, il est en train de rétablir la vérité. Subhanallah, ne pense jamais qu'Allah est injuste. Ne pense jamais, en fait, tout ça. Allah est au-dessus de ça. Ça vient de ça, subhanallah. Exalté, loué soit-il, gloire à Allah. Il est au-dessus de tout ça, d'accord ? Il est vraiment à la surface de tout ça. Donc, Allah ne se sentira jamais, jamais menacé parce que des gens, en fait, ont choisi de lui associer. Il est bien au-dessus de tout ça. Il est bien au-dessus de toutes les actions de ces gens et de leur opinion. Là, pour le coup, si tu cherches quelqu'un qui n'en a que faire de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de ce que les gens font contre lui ou pas, en réalité, est-ce qu'on fait des choses contre Allah ? Pas possible, alhamdoulilah. Mais Allah est au-dessus de tout ça. Et juste la formule subhanallah te montre que Allah est au-dessus, tout simplement. C'est un très beau passage aujourd'hui, je trouve. Ça fait vraiment écho, je trouve, au récit lui-même, à la vie de Moussa alayhi salam. Et il y a de quoi travailler ici. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a du boulot. Et alhamdulillah, on est content parce que de toute façon, on est là sur terre pour ça, inshallah. Je te dis à demain pour la suite. Salam alaikum.